Chapitre 2e, le verger clos. Toussaint Lumineux et le valet furent bientôt dans les réduits encombrés de barriques vides, de paniers, de pelles et de pioches, qui avaient servi de chambre depuis longtemps aux domestiques de la Fromentière. Le maître s'assit sur le coin du lit, tout au fond. Son expression n'avait pas changé. C'était la même physionomie, paternelle et digne, où se mêlait le regret de se séparer d'un bon serviteur, et l'énergique résolution de ne point souffrir une atteinte à son autorité, une injure à son rang. Il s'accouda sur une vieille futaille, encore marquée de couleurs de suif, et où le soir Jean Esmy posait sa chandelle. Sa tête se releva lentement, dans le jour qui venait par la porte ouverte. Il parla enfin au jeune homme qui avait quitté son chapeau et demeurait debout dans le milieu de la petite pièce. « Je t'avais gagé pour 40 pistoles, » dit-il. « Tu as reçu ton dû à la Saint-Jean. Combien reste-t-il à te payer aujourd'hui ?» Le gars s'absorba, comptant et recomptant avec ses doigts sur la toile de sa blouse. Les veines de son front se tendaient sous l'effort de l'esprit. Il avait le regard fixé sur le sol, et aucune autre idée ne traversait l'opération compliquée de ce rural calculant le prix de son travail. Pendant ce temps, le métayer se remémorait l'histoire brève de ce boquin, venu par hasard dans le marais, pour y chercher de la cendre de bouse dont les Vendéens se servent comme engrais, embauché au passage et rapidement accoutumé à ce pays nouveau. Les 3 années que l'étranger avait vécu sous le toit de la Fromentière, 1 an avant le service militaire et 2 ans depuis, années de rue dévaillant labeur, d'honnête conduite, sans un reproche grave, de résignation étonnante, malgré l'hostilité des fils, qui avaient commencé dès le premier jour et n'avaient jamais désarmé. « Ça doit faire 95 francs, » dit Jean Esmy. « C'est aussi mon compte, » dit le métayer. « Tiens, voilà l'argent. Regarde s'il n'y manque rien. » De la poche de sa veste où d'avance il avait mis la somme qu'il devait, Toussaint Lumineux tira une pile de pièces d'argent qu'il jeta sur le fond de la barrique. « Prends, mon gars. » L'autre, sans y toucher, se recula. « Vous ne voulez plus de moi, la Fromentière ?»« Non, mon gars, tu vas partir. » La voix s'attendrit et continua. « Je ne te renvoie pas parce que tu es fainéant, et même, quoique ça m'ait causé de l'ennui, je ne t'en veux pas d'aimer trop la chasse. Tu m'as bien servi. Seulement, ma fille est à moi, Jean Esmy, et je ne t'ai pas accordé avec Rosie. Si c'est son goût, si c'est le mien, maître Lumineux, tu n'es pas de chez nous, mon pauvre gars. Qu'un boquin se marie avec une fille comme Rosie, ça ne se peut, tu le sais. Tu aurais mieux fait d'y penser avant. » Jean Esmy, pour la première fois, ferma demi les yeux, et il devint plus pâle et ses lèvres s'abaissèrent au coin comme s'il allait pleurer. Il reprit, d'une voix toute basse, « J'attendrai tant qu'il vous plairait pour la voir. » Elle est jeune, et moi aussi. Dites seulement le temps, et je dirai oui. » Mais le métayer répondit, « Non, ça ne se peut, il faut en aller. » Le valet tressaillit de tout le corps. Il hésita un moment, les sourcils froncés, le regard attaché à terre. Puis il se décida à ne pas dire sa pensée. « Je n'y renonce pas, j'en viendrai, je l'aurai. » Comme ceux de sa race taciturne, il renferma son secret, et ramassant l'argent, il le compta, en laissant tomber les pièces une à une dans sa poche. Puis, sans ajouter un mot, comme si le métayer n'eût plus existé pour lui, il se mit à rassembler les quelques vêtements et le peu de linge qui était à lui. Tout pouvait tenir dans sa blouse bleue qu'il noua par les manches au canon de son fusil, moins une paire de bottes qu'il pendit avec une ficelle. Quand il eut fini, levant son chapeau, il prit la porte. Dehors, il faisait grand soleil. Jean Esmy marchait lentement. La volonté hardie qui était en ce frêle garçon lui tenait la tête haute, et il regardait du côté de la maison, cherchant Rosie aux fenêtres. Il ne la vit point. Alors, au milieu de ce grand carré vide, lui, le valet, le chassé, lui qui n'avait plus qu'un instant à demeurer à la Fromentière, il appela « Rosie !» Une coiffe aiguë dépassa l'angle du portail. Marie-Rose s'échappa de son abri. Elle s'élança, la figure toute baignée de larmes. Mais presque aussitôt, elle s'arrêta, intimidée par la vue de son père qui venait d'apparaître sur le seuil de la chambre, saisie de peur parce qu'un cri s'élevait du même côté de la cour, à 50 pas de là, et faisait se détourner Jean Esmy. « Dagnon !» Une apparition monstrueuse sortait de l'étable. L'infirme, tête nue, les yeux hagards, agité d'une colère impuissante, accourait. Les bras raidis sur ses épaules, son torse énorme secoué par les cahots et par ses grognements de bête furieuse, la bouche ouverte, il répétait le vieux cri de haine contre l'étranger. L'injure que les enfants du marais jettent aux damnés du bocage. « Dagnon, Dagnon Sarayon, sauve-toi » Lancé avec une vitesse qui disait la violence de la passion et la force de l'homme, il approchait. Toute la haine qu'il avait au cœur, toute la jalousie qui le torturait, et toute la souffrance de l'effort rendait effrayante cette face convulsée, projetée en avant par secousses. Et l'être puissant qu'eût été cet estropié sans le malheur d'autrefois, se reconstituait dans l'imagination et donnait le frisson. Quand elle le vit tout près du valet, Rosie eut peur pour celui qu'elle aimait. Elle courut à Jean Nesmi, elle lui mit les deux mains sur le bras, et elle l'entraîna en arrière du côté du chemin. Et Jean Nesmi, à cause d'elle, se mit à reculer lentement, tandis que l'infirme, devenu plus furieux, l'insultait et criait « Laisse ma sœur, Dagnon !» La voix du métayer s'éleva au fond de la cour. « Arrête ici, Mathurin, et toi, Nesmi, laisse ma fille !» Il s'avançait en parlant mais sans hâte, comme un homme qui ne veut pas compromettre sa dignité. L'infirme s'arrêta, écarta ses béquilles et s'affaissa épuisé sur les cailloux. Mais Jean Nesmi continua de reculer. Il avait mis sa main dans celle de Rosie. Ils furent bientôt entre les piliers du portail où s'encadrait la clarté du matin. Au-delà commençait le chemin. Le valet se pencha vers Rosie et la baisa sur la joue. « Adieu, ma Rosie, » dit-il. Elle s'enfuit à travers la cour, les mains sur les tempes, pleurant sans se retourner. Et lui, l'ayant vu disparaître au loin de la maison, du côté de l'air, cria « Mathurin Lumineau, je reviendrai !»«
Essaye !»
répondit l'infirme. Le valet de la Fromentière commençait à monter le chemin qui passait devant la métairie. Il allait péniblement, comme brisé de fatigue, tout brun dans son vêtement d'affût. Au bout de son fusil, il n'avait qu'une veste, une blouse, trois chemises, deux appos de buis pour les cailles qui s'entrechoquaient comme des noix, choses légères qu'il sentait pesantes. L'effroi de son retour subi à l'état de journalier quêteur de pain l'avait saisi pendant qu'il nouait ses hardes. Il pensait déjà à l'accueil de la mère qui allait le voir entrer, toute transie. À chaque pas, il s'arrachait aussi à quelque chose qu'il aimait, parce qu'il avait vécu 3 ans dans cette Fromentière. L'âme était lourde de souvenirs, et il allait lentement, ne regardant rien et voyant tout. Les arbres qu'il frôlait, il les avait émondés de sa serpe ou battus de son fouet. Les terres, il les avait labourées et moissonnées. Les jachères, il savait en quoi elles seraient ensemencées demain. Lorsqu'il fut en arrière de la ferme, sur le renflement de la route où étaient jadis 4 moulins qui ne sont plus que 2, il osa se retourner pour souffrir un peu plus. Il considéra la plaine du Marais, inondée de lumière, où les roseaux séchés par l'automne mettaient un cercle d'or autour des prés. Quelques métairies reconnaissables à leur panache de peupliers, ils habitaient de ce désert où ils laissaient des amis et de bonheur dont on se souvient dans la peine. Et il parcourut du regard les maisons pressées de Salertaine et l'église qui les domine, paroisse des dimanches finis. Puis il arrêta son âme sur la Fromentière comme plane un oiseau, les ailes grandes. De la hauteur où il était, il apercevait les moindres détails de la métairie. Une à une, il compta les fenêtres, il compta les portes et les virettes, et les traînes autour des champs, où le soir, depuis 2 ans surtout, il ne manquait guère de chanter en ramenant ses bœufs. Quand il revit le verger clos tout au loin, large comme une cause de poids, il se détourna vite. Et son pied heurta sur la route une bête toisonnée qui était couchée là, silencieusement. « C'est toi, Barouge ?» dit le valet. « Mon pauvre chien, tu ne peux pas me suivre où je vais. » En marchant, il passait la main sur le front du chien, entre les 2 oreilles à l'endroit que Rosie aimait à caresser. Après 20 pas, il dit encore « Faut t'en aller, Barouge, je ne suis plus d'avec vous. » Barouge fit encore une petite trotte auprès du valet, mais quand il arriva à la dernière haie de la Fromentière, il s'arrêta en effet et revint seul.